8h43 minutes. Max, peux-tu nous répéter, nous rappeler la nouvelle qui vient de sortir sur les tarifs?
Oui, c'est Radio-Canada qui nous annonce en primeur que le gouvernement canadien va annoncer ce matin une réplique aux tarifs douaniers de 25 imposé par les États-Unis là, sur l'acier et l'aluminium. Le Canada qui va imposer des droits de douane sur des marchandises américaines de 29,8 milliards de dollars. Selon les infos de Radio-Canada, il y a différents produits qui seront visés, pas seulement des importations américaines d'acier et d'aluminium parce qu'elles ne sont pas assez importantes. Fait qu'il faut aller frapper ailleurs. Le gouvernement canadien qui va aller piger là, dans la liste des produits qu'on avait identifiés pour le deuxième volet de la réplique douanière canadienne. Volet qu'on avait laissé tomber avec la pause là, annoncée il y a quelques jours sur les tarifs jusqu'au début du mois d'avril. Là, on en ramène une partie de ce que je comprends qui sera annoncée ce matin pour spécialement faire face, répliquer aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium.
Exactement, la première partie qui était sur des produits qu'au Canada, on peut remplacer par des fournisseurs canadiens d'une valeur de 30 milliards de dollars. Dans les phases subséquentes, on peut se rendre jusqu'à des valeurs de 125 milliards de dollars. Alors, bien hâte de connaître où on va se situer par rapport à ça. Est-ce qu'on va en faire un autre pas de 30 milliards pour s'en rendre à 60 milliards?
On dit 29,8.
Ah, bon, mais parfait. Donc, ça va être ça. On va faire un autre pas. Donc, une phase 2 équivalente à la phase 1. Maintenant, voir les produits et jusqu'à quel point on va pouvoir les remplacer. Parce que dans la phase jusqu'à 125 milliards, il y en avait des produits là, qu'on n'était pas en mesure de remplacer en totalité.
Ça bouge et ça brasse dans l'actualité ce matin. Aïe, 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 aïe. Et on va continuer la discussion avec M. Monsef Déragi du Parti libéral du Québec qui est au bout du fil. M. Déragi, bon matin.
Oui, bon matin. Merci à vous deux.
Ben merci d'être là avec nous ce matin. Toujours un plaisir. J'ai pas le choix, M. Déragi, de vous demander en partant vos impressions sur la faillite de Northvolt en Suède.
Ben, malheureusement, écoutez, pour nous, c'est clairement un autre échec de François Legault. Et ce qui est triste, c'est que les Québécois risquent de perdre beaucoup, beaucoup de dollars en termes de cet investissement. La compagnie mère passe par des moments difficiles depuis plusieurs mois. Nous avons questionné Monsieur François Legault le temps dernier, notamment en matière d'énergie. C'est que c'est impensable garder l'énergie pour une entreprise qui a beaucoup de difficultés financières. Et nous avons exigé que ces blocs d'énergie soient libérés à des entreprises québécoises. Malheureusement, le François Legault n'a pas écouté ce qu'on lui a proposé par rapport à l'énergie. Et par rapport au bloc d'énergie pour les entreprises québécoises. Et encore une fois, malheureusement, M. François Legault se félicitait au début d'avoir convaincu cette start-up suédoise à venir au Québec.
Et là, dans les dernières minutes, Sébastien Beauvais, en lien avec cette annonce de faillite-là de Northvolt, Sébastien Beauvais de Radio-Canada, dit que le gouvernement souhaite la vente de l'usine du Québec. Et sur l'argent qui a été investi, on dit que nous exercerons nos droits s'il advenait une liquidation des actifs au Québec. Fait que d'essayer, j'imagine, de ravoir une partie de l'argent. Mais on avoue, évidemment, du côté du gouvernement, que l'investissement dans la maison-mère, ça a perdu toute sa valeur. Qu'est-ce qu'on retient de ces premières réactions-là du gouvernement du Québec?
Ben, ça se voit la panique. Ça voit la panique. Moi, c'est le sentiment de panique que je vois. Parce que ça, monsieur, madame, tout le monde, que nous, on fasse un investissement à titre personnel avec notre argent et que je perds mon argent et j'essaie de rattraper ce qui reste, probablement ça rentre dans le risque. Mais là, on parle de l'argent des Québécois. Au moment où on se parle, il y a un 14 milliards de dollars de déficit. Au moment où on se parle, il y a des coupures budgétaires dans plusieurs ministères et les gens qui nous écoutent maintenant payent les frais de ces coupures, que ce soit en santé ou dans les autres services de l'État ou les missions essentielles de l'État. Ce n'est pas de l'argent monopolé, M. Legault. Donc, M. Legault, je l'appelle à revenir sur la planète Terre et à très bien gérer l'argent que les Québécois lui ont donné. C'est ça sa responsabilité. Donc, venir aujourd'hui dire, écoutez, on va exercer nos options, ben, il faut déjà trouver l'acheteur. On ne sait pas c'est quoi les limites ou bien les critères des options que le Québec a sur ce terrain. Mais encore une fois, souvenez-vous, on nous a vendu Northvolt comme l'investissement du siècle. Monsieur Legault était tellement fier de sa filière batterie et tellement fier de proposer aux Québécois la batterie. Mais je pense que la seule personne qui a tout compris et il a quitté avant, c'est M. Fitzgibbon aujourd'hui. Parce que M. Fitzgibbon a quitté probablement au bon moment. Mm-hmm. Est-ce qu'elle savait que tout cela s'en venait et il a décidé de quitter?
Bon, il y a de fortes chances, exactement. Monsieur Desragis, je vous amène sur la guerre des tarifs. Réplique du Canada, un 29 milliards additionnels en produits qu'on va venir tarifer des États-Unis. Vous en pensez quoi de cette contre-offensive-là du gouvernement fédéral?
Moi, je pense qu'il faut se tenir debout. On sait que nous avons malheureusement un président au Sud qui est complètement perdu. Et je pense que pour l'intérêt de notre économie, l'intérêt... Il va venir du Canada. Il faut se tenir debout, il faut répliquer absolument.
Doug Ford va être à Washington jeudi. Il prend énormément de place dans ces négociations-là, laissant François Legault dans l'ombre. Vous pensez quoi du travail de François Legault par rapport à cette guerre de tarifs-là?
Ben, je pense que c'est le moment, encore une fois, pour François Legault d'aller demander ou de prendre une bière avec Doug Ford, comme il l'a fait pendant la pandémie. Et probablement lui demander conseil, mais c'est le moment aussi pour M. François Legault de bouger un peu et de protéger les intérêts du Québec. On le voit, M. Ford, sur toutes les tribunes. Il a un style propre à lui, mais j'espère que M. Legault a un plan, parce que j'espère qu'on ne va pas nous payer en tant que Québécois le fait que M. Legault n'a pas fait les choses en règle. On lui a demandé de mettre en place un négociateur en chef, de s'entourer de personnes fiables dans les négociations, de défendre les intérêts du Québec. J'espère que M. Legault est prêt et a un plan de match pour la suite des choses.
M. Desragis, autre sujet chaud, fiasco, ça clique. Vous avez épluché les procès-verbaux des rencontres du CA de la SAC. Certainement une bonne job de moine, j'en suis certain. Vous avez découvert quoi?
Vous avez raison de dire que c'est toute une job parce que c'est plus que 1500 pages. Moi, ce qui m'intéressait, et juste pour le résumer très rapidement, mon point de départ était la conclusion de la vérificatrice générale. Qu'elle a dit clairement qu'une des options que le conseil d'administration a utilisé, c'était pour éviter qu'il y ait un risque médiatique et politique pendant la campagne électorale en 2022. Le problème était le suivant. La SAC avait besoin d'argent. Ils avaient deux options. Soit aller en appel d'offres de 222 millions de dollars, soit fractionner le contrat, le temps que l'élection passe pour que personne ne se rende compte qu'il y a un dépassement de coût. Donc, ça, c'est le constat de la vérificatrice générale. Moi, qu'est-ce que j'ai fait en parallèle? Notre demande d'accès à l'information avec l'ensemble des procès-verbaux que j'avais, j'ai commencé à lire cette période. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait deux jours, le 14 septembre 2022 et le 15 septembre 2022. Nous étions en pleine campagne électorale, souvenez-vous. Le 14, il y avait presque 2h30 d'échanges sur CASA, qui est le système mm-hmm. utilisé à l'intérieur de la SAC, sur la stratégie contractuelle, et ils ont présenté tous les scénarios au conseil d'administration. Et il y a eu des discussions, il y a eu des conclusions malheureusement caviardées. Le lendemain, même si c'est à moitié caviardé, 4.3, un rappel à l'ensemble des membres du conseil d'administration d'obligation par rapport à la campagne électorale. Pas par rapport à ce que on a choisi telle ou telle option. Non, le message il était très clair. Le président du conseil d'administration rappelle aux membres certaines obligations s'appliquant aux administrateurs dans un contexte d'élection générale. Le reste est caviardé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont caviardé. Est-ce qu'ils ont dit, surtout faites attention parce qu'on a morcelé le contrat? Est-ce qu'ils ont dit, écoutez, on vous a expliqué pourquoi on n'a pas lancé l'appel d'offres de 222 millions parce que si on lançait l'appel d'offres pendant la campagne électorale, le gouvernement Legault va avoir des problèmes. Mais depuis quand des membres d'un conseil d'administration sont là, payés, et ils jouent leur rôle pour protéger les intérêts d'un gouvernement. Ils sont là pour protéger les intérêts de la société où ils travaillent. Est-ce qu'ils ont en fait le bon choix de l'option qui avec le moins de risques? Et c'est pour cela que moi, la conclusion que j'ai faite, c'est que la volonté du président de CA
oui.
était que de protéger la CAQ pendant la campagne électorale.
Fait qu'on y va, c'est la preuve que la SAC a protégé la CAQ en pleine campagne électorale.
Moi, je pense que oui, parce que la vérificatrice générale, elle a dit que l'option qui a été choisie, c'est pour ne pas nuire. Il y avait un risque médiatique et politique si le gouvernement, si la SAC optait pour un appel d'offres. Absolument.
Est-ce que est-ce que François Bonnardel ment à la population lorsqu'il dit qu'il ne savait rien?
Ben écoutez, donc, sérieux, à moins qu'on peut dire et conclure qu'il n'était pas ministre des Transports. Il était probablement en motorisme pendant 4 ans. Parce que il ne va pas me faire croire, M. Bonnardel, aujourd'hui, que son président de CA, hein, c'est son homme de confiance, c'est lui qui l'a nommé. Et c'est la société dont il est responsable, M. Bonnardel. Donc, le président de CA rappelle aux membres leurs obligations par rapport au contrat et par rapport à l'élection. Et M. Bonnardel, lui, n'était pas au courant. Il n'était pas au courant des dépassements de coûts. Il n'était pas au courant qu'on a recruté un juge pour dénouer le nombre d'heures demandées par la compagnie recrutée pour faire la transformation numérique. Il n'était pas au courant de rien. Et ça sert à quoi un ministre Kakis aujourd'hui s'il ne surveille pas? Maintenant, on comprend pourquoi on a 14 milliards de dollars. Parce que la plupart des ministres étaient des abonnés absents hein, par rapport à leur rôle.
J'adore tous vos images, M. Desragis. En terminant, comment vous allez faire? Puis là, je parle du Parti libéral du Québec, mais je vais parler de tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale pour que le rapport de l'enquête publique soit déposé avant les prochaines élections générales.
À nous, c'est la condition pour aller de l'avant avec cette commission parce que c'est impossible que les Québécois vont aller à la prochaine élection sans savoir ce qui s'est passé. Est-ce que Mme Guilbeault a failli à son travail? Est-ce que M. Bonnardel était négligent? Et est-ce que le bras droit de M. Legault, attention là, M. Legault là, il ne voulait pas lancer de commission d'enquête avant. C'est parce qu'on a touché à son bras droit. Et c'est qui a touché son bras droit? C'est sa ministre, Mme Geneviève Guilbeault. C'est elle qui a dit à la presse, il y a quelques semaines, que j'ai demandé à la SAC d'aller chercher le feu vert de M. Wallet. Mais dès que M. Legault a su ça, tu touches pas à mon secrétaire général, ben il a déclenché une enquête. Donc moi, j'espère que M. Legault va aller jusqu'au bout dans cette affaire, mais clairement, on exige que les Québécois aient le rapport, et le rapport qui soit public avant la prochaine élection.
Moncef Desragis du Parti libéral du Québec, M. Desragis, merci pour la belle discussion ce matin, toujours un plaisir.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, au revoir.
Manquez pas de sujet?
Non, ben c'est ça déboule. L'actualité à matin, faillite de Nordvolt, contre-tarif, puis Moncef qui est épluché 1500 pages de rapport.
On oublie en plus la présence et le rôle de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Tabarouette.
Puis là, ben, on a un autre client intéressant qui s'en vient là, à l'antenne dans peu de temps.
Ah oui, on va jaser avec notre ami à l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère, mais tout d'abord, Jérôme 50. Un peu de musique, OK? Puis de la bonne musique en passant, là. La plus belle fille du mosh pit à Rage Against le matin.